Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique en ce 11 novembre est Tristan Breillé, des conseillers régionaux de Bretagne, président du parti Renaissance Finistère. Il est avec nous au micro de la matinale. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour l'invitation.
On va parler ce matin d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, évidemment l'élection américaine. On parlera aussi de ce qui préoccupe un peu plus les Français, les Bretons tout à l'heure, mais évidemment l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique pour ce deuxième mandat de président, 47e président des États-Unis. Il sera investi donc en janvier. On imagine que ça va avoir des répercussions en Europe, en France, sur nos territoires. Le président Macron a appelé très vite Donald Trump pour le féliciter de sa victoire. Est-ce qu'on peut imaginer que le mandat Trump 2 sera aussi facile, voilà, on fait un peu de prospection, que le mandat Trump 1?
Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on avait une élection qui s'annonçait très serrée. En réalité, elle a été un petit peu moins serrée que ce qui était prévu. Donc Trump triomphe un petit peu dans cette deuxième élection pour lui, qui va lui donner 4 ans, avec les mains même un petit peu plus libres que ce que ce n'était en 2016, parce que on voit que au niveau du Sénat notamment, il a un peu plus les mains libres. Donc effectivement, ça pose un certain nombre de questions. C'est l'arrivée ou le retour du national-conservatisme à la tête des États-Unis, la première puissance du monde qui va aussi avoir à traiter avec l'Union européenne. Donc effectivement, je pense que le président de la République en France a fait le choix très rapidement de s'exprimer et d'être dans une logique de dialogue comme il l'est depuis 2017, parce que les États-Unis restent un allié, il reste un allié qui sera un petit peu différent peut-être de ce qu'il n'était sur les 4 ans précédents, mais avec qui on va devoir travailler, parce qu'on a quand même des sujets extrêmement importants. On verra comment va évoluer le conflit ukrainien, comment va évoluer le conflit à Gaza et en Israël, les rapports commerciaux aussi qui vont sûrement être beaucoup plus rudes, ou en tout cas avec peut-être pas forcément sur le fond, parce qu'on voit que le protectionnisme américain, même sous Joe Biden, était assez puissant, hein, Inflation Reduction Act, avec la volonté de protéger l'industrie américaine. Mais c'est plutôt sur la méthode, sur la forme et sur l'instabilité, en tout cas que le rapport de force va être aussi différent. Donc voilà les chantiers qui s'ouvrent. Et forcément, la question au-delà de la France, c'est comment l'Union européenne va réagir. On voit qu'on est dans une configuration un petit peu différente de 2016, où on a une montée aussi des populistes, des nationaux conservateurs en Europe, que ça soit Orban, que ça soit Meloni, que ça soit également en République tchèque, et on voit que même en Allemagne, en France, voilà, ce sont des propositions politiques qui montent. Donc une configuration extrêmement différente, et il faut que nous, les démocrates, on soit les plus puissants possibles, en tout cas qu'on ait cette force pour aller faire en sorte que l'Union européenne puisse se révéler sa puissance face à des États-Unis qui regarderont beaucoup plus leur nombril que ça n'a pu être par le passé. Donc voilà, un beau défi.
Un beau défi, avec évidemment, vous avez listé tous ces défis au pluriel à venir pour l'Europe, pour la France également. Il y a un défi, c'est celui de la défense. On a entendu Donald Trump très vite s'exprimer, ça fait déjà plusieurs mois qu'il en parle pendant sa campagne, sa longue campagne, de dire voilà, l'OTAN, ça coûte cher aux États-Unis, ceux qui voudront être défendus par l'OTAN, on imagine un peu en creux que c'est l'Europe, les pays européens, eh bien, voilà, ils devront payer ou se débrouiller. Est-ce qu'aujourd'hui, ça pose l'idée, ou ça fait revenir l'idée, qui avait été défendue d'ailleurs par le président Emmanuel Macron, d'une armée européenne? Voilà, est-ce que cette fois-ci, on va être un peu forcé et contraint de s'y atteler?
Et l'Europe est au pied du mur, sur ces questions-là. L'Europe est au pied du mur. On sait très bien que Donald Trump va mettre la pression sur les pays européens pour que, si tant est que l'OTAN puisse continuer à poursuivre en tant qu'alliance que chaque pays européen mette au pot, si on peut le dire comme ça. C'était un petit peu sa vision. Mais nous, de toute manière, au-delà des sujets atlantistes, si on peut le dire comme ça, il y a une responsabilité des pays européens à un moment donné de prendre conscience qu'il faut qu'on soit en capacité de nous défendre par nous-mêmes. C'est quelque chose qui est porté de manière très forte par le président de la République depuis 2017, avec notamment Jean-Yves Le Drian, que l'on connaît bien ici en Bretagne. Mais ce ne sont pas des vœux pieux. À un moment donné, il faut qu'on ait des vraies réalisations. Alors, est-ce que c'est une armée européenne? Est-ce que c'est plus de coopération, notamment industrielle? En tout cas, il faut qu'on avance sur ce sujet-là, parce qu'on est au pied du mur. Il n'y a pas d'autre terme, et il faut que l'Europe se réveille là-dessus.
On a vu les Allemands, alors d'ailleurs le président de la République a aussi appelé Olaf Scholz, il y avait un échange et on a vu assez vite les Allemands dire nous on va rétablir le service militaire. Bon, ça peut paraître un peu surprenant, mais il y a cette inquiétude, ces menaces à l'Est, on voit ce qui se passe en Ukraine, là aussi il va y avoir une évolution. On imagine que Donald Trump, il l'a dit, il veut mettre fin au conflit très vite, il a même donné des dates, peut-être un peu fantaisiste, mais en tout cas, il veut arrêter ce conflit. Si demain, l'Ukraine devait se plier, on peut le dire, à un accord de paix, est-ce que ça ne sera pas forcément aussi au détriment, quelque part en creux, de l'Europe?
Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, puisque aujourd'hui, si on prend l'actualité telle qu'elle est en ce moment, l'Ukraine arrive à résister et a réussi à résister de manière extrêmement forte face à son agresseur russe depuis des mois. Si on a un arrêt des financements américains, se posera la question des financements européens, et ou la question d'un accord de paix, de cesser le feu, et donc la question territoriale derrière. De fait, si la Russie continue à grignoter du territoire en Ukraine comme l'ont fait en 2014, avec à l'époque moins de réactions, de fait ce sera une perte de position aussi pour l'Europe.
Ce sera parce un échec pour l'Europe, quelque part.
Ce sera en tout cas une difficulté, parce que derrière tous ces territoires-là, il faut voir qu'est-ce qu'on produit sur ces territoires. C'est du blé. Donc, c'est une capacité pour la Russie de prendre un petit peu plus de contrôle sur un certain nombre de matières premières stratégiques. C'est aussi une capacité pour Poutine de dire j'ai continué à mon projet mondial qui consiste à recréer la grande Russie telle que la conçoit dans une vision tsariste. Donc, c'est aussi un défi pour l'Europe. Et je crois qu'à un moment donné, on a un vrai clivage politique aussi en Europe, je le disais tout à l'heure, avec des néoconservateurs plus nationalistes qui ne sont plus forcément contre l'Union européenne, parce qu'ils y voient bien un intérêt, mais qui veulent du coup en prendre le contrôle. Et c'est à nous aussi, en tant que démocrates, je prends le terme progressiste aussi, de lutter en fait contre cette montée populiste. Et là, pour le coup, il y a un vrai clivage politique européen, mais c'est intéressant aussi, parce que ça va permettre aux citoyens ici en France et partout en Europe de peut-être comprendre mieux l'Europe au-delà de la seule vision un peu techno qu'on peut en avoir de Bruxelles qui décide des normes et qu'on ne comprend pas grand-chose. Là, on a des vrais clivages politiques et il y a des vrais choix. Donc, on est au devant de l'histoire.
Au devant de l'histoire aussi avec une Europe peu ou prou fracturé d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal aussi. Vous parliez tout à l'heure des néo-conservateurs qui prennent beaucoup de place, faut bien le voir dans certains pays. Est-ce que aujourd'hui il y a la crainte peut-être que dans des pays comme la France, on ait une bascule à la Trump, si j'ose dire?
Il y a toujours la crainte, et puis on n'est pas passé loin la dernière fois, si je peux le dire de cette manière. Donc, effectivement. Mais maintenant, c'est à nous aussi de prouver que c'est pas un horizon qui est acceptable pour les Françaises et les Français. Moi, je pense que la Bretagne peut aussi donner l'exemple là-dessus, parce que vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale ici en France, La Bretagne et le Grand Ouest, allez, si on le prend comme ça, n'a pas donné de députés RN. Voilà. Donc,
même s'il y a eu une percée quand même.
Il y a une percée, bien sûr, il y a une percée, et ça, faut le prendre en compte. Notamment, on voit que la question des territoires moins denses, l'accès aux services publics. On a ce sentiment de décrochage sur lequel il faut être absolument vigilant. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut aussi prendre en considération que les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, et on le voit sur l'élection américaine, les IA, les fake news, les deepfakes, etc., jouent un rôle absolument majeur. Dans tout ce maelstrom, c'est à nous aussi d'être le plus convaincant possible de par nos actes, de par nos convictions et de par des élections qu'on gagnerait. Et donc, il faut qu'on continue ce combat des idées et pas laisser le moins de place à ces idéologies qui sont en réalité déclinistes pour notre pays, pour notre continent et pour le monde entier.
Alors, comparaison n'est pas raison, mais on a vu Donald Trump porté au pouvoir quand même par des classes plus défavorisées. Beaucoup les campagnes américaines ont mis Trump, j'allais presque dire au pouvoir, mais en tout cas, ont voté pour Trump dans des États qui se sentent un peu abandonnés. On a l'impression d'une forme d'analogie avec la France. Et il y a une grande demande sociale aussi. Finalement, les questions sociétales, on a entendu beaucoup les femmes s'exprimer, les minorités, la crainte pour une remise en cause de l'avortement, de la loi sur l'avortement aux États-Unis, c'est déjà le cas dans certains États. On a l'impression que c'est passé à l'arrière-plan, que les gens qui ont pu être interrogés dans la rue ont dit « nous, on a voté Trump parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin d'une situation, le reste, ma foi, on verra après ». On a un petit peu ce discours-là aussi en France, si on tend un peu l'oreille.
Alors, je pense pas qu'on puisse calquer la sociologie politique et électorale américaine en France. Ce serait un petit peu réducteur, je pense. Mm-hmm. Mais en revanche, moi, je suis extrêmement vigilant sur un élément, c'est que on voit poindre, à mon sens, de plus en plus un clivage, enfin le retour d'un clivage centre-périphérie. Mm-hmm. C'est-à-dire que on a les grandes métropoles qui de par notamment des réformes récentes, capter les capitaux, être très attractives, etc. Et des territoires moins denses, plus ruraux, qui ont le sentiment de décrochage et qui peuvent, notamment ceux qui habitent dans ces territoires, être tentés par un vote plus radical, notamment vers le Rassemblement National. Et là, nous, il faut aussi qu'on soit en réponse par rapport à ces sujets et que, je le redisais sur la question des services publics, sur la question des mobilités.
La Bretagne fait beaucoup pour les mobilités.
La Bretagne, en tout cas la région, c'est un sujet sur lequel je travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que tout l'argent n'aille pas que vers les grandes métropoles où c'est clair, on peut faire du tram, on peut faire des lignes de métro, mais à un moment donné, le jeune de 16 ou 18 ans qui vit dans une commune de 2000 habitants à 40 minutes d'une gare, il a une solution de mobilité pour aller faire son alternance, pour aller au lycée, pour aller faire son BTS ou autre. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on traduise. Et d'ailleurs, je disais une étude très récente et très intéressante de l'Institut Terram là, sur l'effet de... du manque de mobilité sur la capacité des jeunes à pouvoir se projeter dans ces territoires ruraux. Voilà, on voit qu'on a des sujets et il faut y répondre parce que sinon, on court aussi à des catastrophes électorales, il faut le dire.
Voilà, donc la vigilance toujours là aussi. Avec des sujets qui sont clivants, parfois on pense à l'immigration, ou encore à la sécurité. Alors je décorrèle volontairement les deux sujets, mais ce sont des sujets qui interpellent, y compris aujourd'hui dans les territoires ruraux. On a vu les récents événements à Rennes, événements violents, une forme de guerre des territoires par les trafiquants de stupéfiants. Bruno Retailleau s'est déplacé à Rennes, le ministre de l'Intérieur, en apportant des promesses, en disant « voilà, on rentre dans une guerre ». Mais ça pose aussi la question des moyens au moment où on examine le budget. Comment arriver à combler le déficit français et en même temps continuer à lutter contre ces trafics, par exemple, pour ne prendre que la question des moyens.
Bah les moyens, depuis 2017 quand même, et là on est sur une configuration politique un petit peu différente, mais on a mis les moyens dans la police nationale, dans les forces de sécurité du quotidien. Je prends l'exemple de Brest, on a eu une augmentation significative. Alors il y a encore du chemin à faire, mais c'est des éléments qu'il faut quand même mettre au crédit de ce qui a été fait depuis 7 ans. Après, moi aujourd'hui je vois... Bruno Retailleau, c'est pas ma tasse de thé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je pense pas. Vous savez, ça fait des années et des années qu'on dit que les responsables politiques, sur responsables politiques, quels que soient les bords, on va faire une guerre contre la drogue, contre les trafics, etc., etc. On a la politique la plus répressive d'Europe.
Ça suffit pas.
Et moi, je pose la question. Est-ce que, à un moment donné, il faudrait pas se dire, voilà, on sort d'ailleurs des élections américaines. Une des propositions de la progressiste Kamala Harris, c'était des pénalisations ou légalisation de certains, par exemple, du cannabis. Mm-hmm. Les gens consomment. Pourquoi ne faudrait-il pas peut-être l'encadrer plutôt que de le réprimer? Pourquoi ce serait pas plutôt une question de santé publique qu'une question pénale? Donc, on a la politique la plus répressive. On est effectivement dans un moment où, en plus, voilà, il faut le dire, il y a des drames humains, et donc il ne s'agit pas d'occulter ces sujets-là. Mais posons-nous aussi les questions de pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que le tout répressif, c'est efficace? En l'occurrence, il faut voir que non. Donc, est-ce que d'autres pistes ne pourraient pas être questionnées? Voilà, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se fermer de porte sur ces sujets-là, tout en ayant conscience que, attention, les problématiques qu'on a dans certains quartiers vis-à-vis du trafic de drogue ne seraient pas réglées d'un claquement de doigts si on faisait ce genre de décision. Et qu'il y a un sujet quand même de remettre la République à sa juste place dans tous les quartiers et que ces sujets de sécurité restent prééminents, notamment dans certaines zones. Je dis néanmoins qu'il pourrait y avoir certaines réflexions pour avancer sur ces sujets-là.
Alors, la dépénalisation du cannabis, qui pourrait aussi rapporter quelques deniers à l'État. Voilà, on pourrait le dire au passage, peut-être justement pour lutter contre les trafics.
Bah, pour mettre de la prévention dans les collèges, dans les lycées, voilà, structurer aussi... la vente et la contrôler, voilà, c'est pas une solution magique, hein, parce que les pays où c'est légalisé,
c'est un départ de réponse,
c'est pas
finalement
parfait, mais il y aurait peut-être moins de d'insécurité, moins de violence, et donc forcément de trafic associé. Donc voilà, je pose le sujet et peut-être que ça mérite réflexion. Et je sais que d'ailleurs, dans notre camp politique, des personnes comme le député Mendes de Moselle, voilà, a posé ses questions, et qu'à un moment donné, peut-être, il faut qu'on ait le courage d'avancer sur ces sujets. Voilà.
Et de faire bouger les lignes de la société aussi, parce que tout le monde n'y est pas prêt, il faut bien le dire.
C'est un sujet clivant, voilà. C'est clair, mais même chez nous. Même chez nous, je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt pour, d'autres plutôt contre, mais voilà, à un moment donné, c'est le débat aussi.
Avec aussi toute l'éducation, la prévention, on voit que beaucoup de jeunes paient un lourd tribut, le tribut de leur vie, bien souvent, dans ces trafics de drogue et cette lutte entre les gangs, entre les mafias. Là aussi, il va falloir se pencher sur la question des jeunes qui tombent, pour plein de raisons, des raisons sociales parfois, dans ces trafics.
Mais bien sûr, et je pense que dans les quartiers populaires, il y a un vrai renouvellement de la politique de jeunesse là-dedans, dans le sens peut-être on a vu que les associations qui travaillent au quotidien et qui font voilà, souvent un bout de bras et avec des personnes très engagées, un travail très intéressant. Moi, je crois beaucoup aux questions d'entrepreneuriat dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la ville. Il y a des associations qui travaillent au quotidien, comme par exemple voilà, les déterminés, comme l'association 1 pour 1, voilà, et qui font en sorte qu'on puisse donner sa chance, leur chance à des jeunes qui ont envie de s'engager pour des projets entrepreneuriaux. Voilà. Et du coup, derrière, c'est ce qui crée aussi des rôles modèles, c'est-à-dire des jeunes qui ont été accompagnés à un moment donné, qui ont réussi à monter leur entreprise sans que ça soit forcément flamboyant, mais voilà, qui font vivre leur quartier, qui sont un rôle modèle pour d'autres jeunes qui pourraient se dire bon bah qu'est-ce que je fais moi, quel est mon horizon, quel est mon avenir, voilà. Et je pense que ça passe beaucoup par ça. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur cette éducation populaire aussi, de la renouveler un petit peu, parce
donner
que
des
le tout sécuritaire, et oui, forcément,
ça, là aujourd'hui,
mais alors effectivement, dans un contexte budgétaire qui reste contraint, bien évidemment, mais moi je ne crois pas au tout sécuritaire, voilà, je ne crois pas au tout sécuritaire, parce que ça crée... de la défiance vis-à-vis de la République aussi, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas à un moment donné qu'on soit ferme sur les valeurs de la République, sur la laïcité, mais on ne peut pas répondre à toute cette jeunesse qui se questionne aussi à certains égards que par la matraque et par la répression. C'est pas tenable en fait dans une société qui vit bien.
Il faut avoir un œil aussi sur les dangers de dérives communautaristes. On les voit, ces dérives, dans certains quartiers, parfois même dans certaines campagnes. Voilà, ça gagne du terrain, comme l'on dit. Il faut être prudent là-dessus, à bien conserver cette laïcité de la République française et pas lâcher le terrain, pas lâcher le morceau, si vous me permettez le terme.
Ah, bien sûr. Mais bien sûr, là-dessus, il faut... Puis c'est la lecture d'Aristide Briand. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin là-dessus. D'ailleurs, il y a certains responsables politiques qui devraient peut-être le relire. Mais oui, il faut être ferme, et c'est ferme notamment à l'école. Je pense que c'est un des lieux où il faut que chacune et chacun comprenne qu'on est dans un pays laïque, qu'on n'est pas dans un pays de communauté, mais dans un pays où on défend aussi une forme d'universalisme, bien qu'il soit un peu mis à mal par... voilà, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais c'est une sentinelle de la République aussi, l'école. Et je pense que, par exemple, moi je salue beaucoup le travail de Gabriel Attal sur ces sujets-là, hein, qui a été très ferme, et en soutien des professeurs aussi, parce qu'ils en ont besoin. Et voilà, les récents procès, notamment en cours, là, sur l'assassinat de Dominique Bernard.
Oui, Dominique Bernard, Samuel Paty aussi.
Voilà, c'est aussi, ça montre que des lieux comme l'école ne sont pas forcément toujours protégés autant qu'ils le devraient. Et donc, il faut qu'on soit en soutien de notre école, qui est aussi une des vigies de la République, et donc des valeurs qui sont celles de la laïcité.
Alors, il y a eu cette alerte des Français, on pourrait dire pour les trois tours, si vous me permettez, des élections, les élections européennes et les deux tours, évidemment, des élections législatives. 11 millions de Français ont porté leur voix sur le Rassemblement national. Ça veut dire quelque chose de cette société française, là aussi très fracturée. On a le sentiment que c'est pas forcément un vote d'adhésion, mais que c'est un vote de rejet, de colère, rejet peut-être de Emmanuel Macron, on pourra en dire un mot, mais rejet de colère, et là aussi on sent la fracture sociétale. Il y a beaucoup d'attentes en termes sociaux aujourd'hui, ou sociales aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir répondre à tout cela, et de manière rapide et concrète?
Bah bien sûr qu'il faut y répondre. Je serais fou si je vous disais le contraire.
Je m'attendais un peu à votre réponse.
Aucun responsable politique ne vous dirait le contraire. Après, voilà, c'est des sujets qui sont multidimensionnels. Moi, actuellement, je pense qu'il faut qu'on... Si je fais un peu le bilan, notamment de ce qui a été fait là depuis quelques années, il y a un sujet, je pense, sur lequel on pourrait... avancer et ça solutionnerait peut-être un certain nombre de questions. C'est qu'aujourd'hui, le premier responsable politique qui est en face des citoyens, c'est le maire, c'est les adjoints, c'est les élus locaux. Il y a des moyens d'action au plan local, et ça permet de voir l'efficacité de l'action publique aussi. Quand on inaugure une route, quand on ouvre une école, quand on met en place une maison France Service, c'est en lien aussi avec les services de l'État, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive, à un moment donné, à desserrer l'étau de l'État central. Ce qui veut dire, d'une part, d'avoir plus de moyens et plus de capacités à faire dans les services déconcentrés, notamment les préfectures, et en même temps, de donner plus de responsabilités et donc plus de compétences aussi et de moyens d'action aux maires et puis aux élus locaux. C'est pas un vœu pieux parce que à un moment donné c'est aussi la capacité de redonner envie aux gens de s'engager dans les municipalités, parce que là on a des élections qui vont arriver en 2026.
Vous m'avez devancé, mais voilà.
Il va y avoir un vrai sujet sur l'engagement des élus et des futurs élus dans cette élection-là. Donc ça, j'y crois beaucoup et je pense que ça fait partie, et je pense qu'il faut se faire ce procès-là, mais en tout cas cette réflexion-là, c'est ce bilan-là que... Voilà, il y avait eu des annonces aussi du président là-dessus sur le pacte girondin. Et ça, je pense que ça aurait mérité qu'on aille plus loin.
Alors, on va parler des municipales, il nous reste deux, trois petites minutes, mais sur cette déconcentration de l'État, finalement, donner plus de pouvoir aux régions, donner plus de pouvoir au territoire. On a entendu le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, il y a quelques mois, dire voilà, il faut plus de décentralisation, même plus d'autonomie pour les régions. Est-ce qu'il faut finalement changer la façon de faire de la politique à l'échelle locale, à l'échelle territoriale? Et ça nous amène aussi aux élections, parce que j'imagine que vous êtes en ordre de marche, je ne fais pas de jeu de mots, chez Renaissance, mais est-ce qu'il faut avoir ça à l'esprit, être proche des citoyens?
Je pense que ce que les citoyens attendent, et l'image de l'Assemblée nationale est à contre-ordre là-dessus, les personnes que je rencontre au quotidien, ils me disent « Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ?» Ok, il y a des clivages politiques, il faut assumer les clivages politiques. On n'est pas d'accord sur certaines choses, très bien. Par contre, quand à un moment donné, et d'autant plus dans les moments que l'on vit, avec les urgences que l'on a, les personnes, les citoyens attendent que les responsables politiques sachent discuter, sachent se mettre d'accord sur le fait que là on n'est pas d'accord, donc on n'avancera pas, mais sachent se mettre d'accord aussi sur « Ok, là on peut trouver des voies et moyens d'entente, et on va avancer. » Et ça, en l'occurrence, à l'échelle locale, on sait le faire. Toutes les petites communes, 1000, 1500, 2000 habitants, mais chacun a sa vision politique, chacun parfois même son opinion politique, mais on arrive à se mettre d'accord sur un projet. Nous, à la région, c'est un peu différent. On est dans une minorité qui se veut constructive. Il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord avec le président de région. Il y a des choses avec lesquelles on est en accord, on a des points de vigilance aussi, on le dit, mais voilà, c'est comme ça qu'on conçoit aussi notre mandat au sein de notre groupe, et donc je pense que les citoyens sont en attente de ça, et moi j'espère, je regarde parfois avec un peu de désarroi ce qui se passe à l'Assemblée nationale notamment, parce qu'au Sénat c'est un petit peu différent, mais à l'Assemblée nationale, ça donne un triste spectacle, et c'est ce qui alimente à mon sens aussi des votes plus radicaux, parce que ça donne le sentiment d'une impuissance politique.
Ça éloigne aussi des Français de la politique, ça les dégoûte, je vais peut-être mettre des guillemets qui s'imposent, mais voilà, il y a une forme de dire, voilà, bon, c'est ça, quoi.
Oui, non, parce qu'en même temps, les Français, ils sont extrêmement politiques. On aime ça, la politique en France.
En tout cas, ils écoutent les émissions politiques et la matinale de Bretagne 5 avec intérêt. Vous avez envie de vous présenter dans une grande ville, tenez Brest, comme ça, là, il nous reste 15 secondes.
Moi, j'ai envie d'être élu local en 2026.
Voilà, on le note. Et vous viendrez en reparler, Tristan Brayer, conseiller régional de Bretagne, président du parti Renaissance Finistère. Vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous, bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.